Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Parce que l'humain a toujours le choix et c'est cette même famille qui aurait pu me détruire qui me permet aussi aujourd'hui d'être, je pense, un peu plus mature que les autres, un peu plus déterminé que les autres. Parce que ces moments difficiles m'ont forgé, m'ont aussi permis de voir ce que je ne voulais pas devenir.
Enfant pauvre et sans diplôme, l'homme que vous allez entendre n'est pas un unième start-upper sorti d'école de commerce. Dormir dans le bus jusqu'au terminus, gagner son pain quotidien avec des petits boulots, mais voir toujours plus grand et parvenir la rage au ventre à sortir de terre une start-up de la food tech qui emploie désormais 60 salariés, c'est la vie de ce trentenaire au discours cash. Vous avez sûrement déjà vu le nom de sa marque, Feed, qui élabore des repas complets et équilibrés dans des formats pratiques type bar, boissons, shakers ou snack meals. Le tout avec des recettes conçues en France et fabriquées à partir d'ingrédients vegan, sans gluten, sans lactose et sans OGM. Avec lui, on a parlé de la maturité que lui ont apporté ses difficultés d'enfant, des bienfaits d'une colère maîtrisée, de l'obsession de l'argent comme moteur pour entreprendre et des vertus du sacrifice quand on n'a pas d'autre choix que d'avancer fort et vite. Nous avons également évoqué le marketing multi-cible et multi-produits de Feed, les avantages et les inconvénients à ne pas avoir d'associé cofondateur, la nécessité d'avoir un projet lié à ses convictions profondes et son appel à la 6ème République. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Anthony Bourbon, le fondateur et CEO de Feed.
Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de chance, c'est juste qu'on travaille plus que les autres. On est 100% responsable de ce qui nous arrive, de nos réussites comme de nos échecs. Anthony, cette phrase est de toi et elle me plaît beaucoup. Et je vais te demander en première question si c'est possible de te présenter autant professionnellement que personnellement, en sachant que tu nous dis uniquement ce que tu as envie de nous dire sur le perso. Voilà.
Avec plaisir, je suis Anthony Bourbon, j'ai 32 ans. Je suis le fondateur et CEO de Feed, une startup qu'on a lancée en janvier 2017, qui a pour objectif d'aider les gens à se dépasser avec la nutrition. On leur propose des repas ou des snacks qui sont toujours pratiques et équilibrés, qui leur apportent tout ce dont ils ont besoin. L'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent se dépasser au quotidien et que Feed devienne une marque générationnelle, inspirante et qui permette aux gens de comprendre qu'ils sont les maîtres de leur destin, les capitaines de leur bateau et qui peuvent réaliser à peu près toutes les idées qu'ils ont. Et la nutrition, c'est souvent le premier step vers l'atteinte de ces objectifs. Parce que ça te met dans un mindset, tu fais attention à toi, t'es efficace, ça te met dans une bonne énergie et ça te permet, plutôt que de faire la queue pendant 15-20 minutes à la boulangerie ou au supermarché, de directement attaquer ton sujet, d'aller au sport, de t'entraîner, de travailler plus, de jouer ton instrument préféré, d'appeler tes amis, de voyager, bref, de faire des choses qui sont concrètes et dans ton aspect, on va dire, fonctionnel pour tes rêves et tes objectifs. D'un point de vue un peu plus perso, moi je viens d'une famille très basique, très pauvre. Mon père était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. C'était pas facile. Il y avait en plus une ambiance assez toxique à la maison. J'avais un père violent et du coup une mère qui était pas dans ses baskets, on va dire.
Donc un peu. T'avais pas de frères et sœurs ?
Non, pas de frères et sœurs. Donc vraiment, moi, j'étais un peu spectateur de tout ça quand j'étais jeune et je veux surtout pas faire caliméro, mais c'est vrai que je pense qu'un enfant ou un humain, de manière générale, se construit énormément pendant ses premières années, on va dire ses 15-20 ouais. premières années. Et c'est vrai que j'ai pas eu du coup de repères constructifs qui me permettaient de me dire ça, c'est normal ou pas normal. Quelque part, c'est une chance et c'est pour ça que j'essaie toujours de passer le message suivant, qui est de dire tu peux toujours tourner des difficultés ou des moments compliqués qui auraient pu détruire quelqu'un comme quelque chose qui va aussi te forger et te donner une chance que les autres n'ont pas. Et typiquement, j'aurais pu moi me plaindre de cette vie-là en me disant dans tous les cas, j'ai aucune norme sociale, j'ai pas les codes, j'ai été élevé dans la violence, donc je vais forcément mal finir, un peu comme le violeur qui a été violé dans sa, ça me fait toujours marrer de dire ah ouais, mais il a été violé dans sa jeunesse, donc il reproduit un peu le schéma. Et moi, c'est pareil, j'aurais pu reproduire le schéma de j'ai un père violent, donc moi aussi je vais battre les femmes, moi aussi je vais insulter mon fils tous les jours. Mais non, en fait, parce que l'humain a toujours le choix. Et c'est cette même famille qui aurait pu me détruire, qui me permet aussi aujourd'hui d'être, je pense, un peu plus mature que les autres, un peu plus déterminé que les autres, parce que ces moments difficiles m'ont forgé, m'ont aussi permis de voir ce que je voulais pas devenir. Et donc, quelque part, n'avoir aucun code m'a permis de n'avoir aucune limite. Parce que souvent, ce que je vois autour de moi, c'est quand les jeunes ont un père qui a réussi ou une mère qui a réussi, admettons que j'ai n'importe quoi, un père qui a réussi à être CEO ou une mère qui a réussi à être DG et qui a 1 million d'euros de patrimoine, ben, s'ils arrivent à avoir 2 millions d'euros de patrimoine, ils diront c'est bien parce que j'ai fait plus que mes parents. Et ils vont s'arrêter là. Alors qu'en fait, si t'as aucune norme, aucune base, t'as pas de jurisprudence comparative. Et moi, du coup, même si j'ai 2 millions, je vais me dire, bon, bah, pourquoi j'aurais pas plus, quoi, en fait. Et donc, je vais toujours essayer d'aller plus loin et de prendre mes propres modèles, de manière à pouvoir toujours repousser mes limites.
Magnifique. Mais ça t'empêche pas d'avoir envie de fonder une famille.
Ouais, vraiment, j'ai pas de limitation. J'ai pas de limite à ce niveau-là, mais j'en ai pas besoin là à l'heure actuelle, tu vois. Alors j'ai 32 ans, peut-être que dans 5 ans on refera un podcast et je te dirai putain, c'est devenu mon objectif de vie, tu vois. Mais en fait, ma plus grande hantise, c'est de faire des enfants ou d'avoir une famille par convention sociale ou parce que le monde attend ça de moi. Je pense que vraiment chaque humain doit se poser la question de qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me rend heureux. Et en fonction de cette introspection, là, tu peux faire des choix. Mais typiquement, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui font des enfants parce qu'ils disent « bah, j'ai 30 ans, c'est le moment ». Et du coup, qui se mettent des limites dans leur vie professionnelle, dans leur épanouissement de, ça peut être par les voyages ou par une de leurs passions. Et du coup, les enfants vont être perçus un peu comme les raisons ou les coupables de leur manque d'épanouissement à un moment. Et ça se retourne toujours. Moi, je me souviens quand mes parents, quand j'étais jeune, me disaient c'est à cause de toi qu'avec ta mère ça va mal, c'est à cause de toi qu'on va divorcer. Enfin, alors que moi, j'étais là, j'avais 9 ans, j'étais gentil, moi, enfin, à part rester en ma chambre, j'ai su pour rien, quoi. Mais du coup, l'enfant devient un poids. Donc, je pense qu'il faut absolument faire des enfants quand c'est l'aboutissement d'un couple, quand le couple est épanoui, et pas non plus quand, tu sais, c'est le truc, bon, notre couple va mal, on va essayer de faire un enfant et comme ça peut-être que ça va nous rapprocher. Bah non, l'enfant, tu vois, pour moi c'est le Saint Graal, c'est la conclusion d'une relation incroyable. Et du coup, vu qu'en ce moment je suis très focus sur mes objectifs perso, très égoïstement d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que je veux réussir, je veux atteindre ma mission, je veux atteindre ma promesse. Quand j'aurai atteint tout ça et que que je considérerais avoir une vie perso qui m'a épanoui, bah là, peut-être, à ce moment-là, je ferai des enfants, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'en ressens pas le besoin.
Bien sûr. Non, et puis c'est totalement à ton honneur de vouloir t'accomplir avant de faire un enfant, justement pour ne pas lui reprocher quoi que ce soit un jour, quoi. Donc,
Ouais, et pour pouvoir lui transmettre des trucs intéressants, tu vois, typiquement, je suis intimement persuadé que la transmission, c'est ce qui sauvera l'humain et ce qui permettra à l'humain de faire de grandes choses ou pas. Et si t'as pas été épanoui en tant qu'homme ou en tant que femme, comment tu veux transmettre de bonnes valeurs? Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. J'avais aucune bonne valeur parce que mes parents étaient malheureux. Et donc, vu qu'ils étaient malheureux, leur couple était malheureux et moi, ils m'ont renvoyé que des valeurs qui étaient négatives. Alors que si tu t'es déjà épanoui en tant que femme, en tant qu'homme, que t'as des choses à apprendre, que tu peux parler de pays que t'as voyagé, où t'as voyagé, de business que t'as lancé, de passions que t'as, qui t'ont permis de t'améliorer ou de prendre du plaisir, mais là, l'enfant, il grandit, il écoute, il est éveillé. Donc vraiment, je pense que d'un point de vue égoïste, il faut penser à soi, et d'être égoïste permet aussi d'être altruiste in fine, parce que le moment où tu as l'enfant, ça te permet qu'il soit heureux.
C'est très sage. Quel discours, dis donc, je suis étonnée. enfin, je suis pas étonnée parce que j'ai quand même écouté, pour préparer ton interview, j'ai écouté pas mal de tes précédentes interviews et ton discours me plaît beaucoup parce que moi j'ai à cœur d'également montrer des exemples de personnes qui ne sortent pas d'école de commerce, qui ne sortent pas des sentiers, on va dire, un petit peu dorés, tu vois, de la France. Et c'est vrai que bah, j'espère que tu feras figure d'exemple et que tes paroles seront entendues auprès du plus grand nombre. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le parcours, en fait, qui donc là j'ai bien cerné l'aspect familial et de là où tu viens, mais le parcours professionnel, en fait, qu'est-ce qui Quand est-ce que ça a démarré? Est-ce que c'est parce que tu t'es retrouvé dans la rue? Est-ce que c'est parce que t'as pas eu le choix? Est-ce que c'était par envie? Est-ce que t'as vécu des échecs? Enfin oui, je suppose que t'as quand même vécu des échecs avant de lancer FID. Mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus?
Oui, bien sûr. L'échec fait partie de ma vie au quotidien. C'est-à-dire que j'ai eu 20 ans d'échecs avant de commencer à réussir. Et la patience, la résilience m'ont permis petit à petit de sortir la tête de l'eau. Je considère pas du tout avoir fait des choses exceptionnelles, même si FID est un beau succès au bout de 3 ans et que ça fonctionne bien, qu'on a eu des bons chiffres. Je reste très humble par rapport à ce qui a été fait. Je veux créer beaucoup plus de valeur et avoir un impact beaucoup plus grand à la fois en business mais aussi sur la société. Mais tout ça, c'est la résultante d'un nombre incalculable, on va dire, d'échecs, d'erreurs. Et il faut l'assumer parce que trop souvent, quand on entend les entrepreneurs ou les hommes politiques ou les gens qui ont la parole, ça a l'air toujours très simple, facile, les mecs sont brillants. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'ils ont tous échoué des dizaines et des dizaines de fois avant d'en arriver où ils sont. Et c'est un message qu'il faut transmettre aux jeunes. Parce qu'on est dans une génération un peu réseaux sociaux où tout va très vite, tu mets 3 photos sur Instagram, tu peux avoir 150 000 followers. La réalité, c'est que quelle que soit votre destinée, le business, le voyage, la musique, le sport, l'art, vous allez devoir travailler très dur et très longtemps pour que ça puisse, in fine, peut-être fonctionner. Donc, moi, je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 15-16 ans. Suite au divorce de mes parents, ma mère était un peu fatiguée, moi j'étais un peu compliqué aussi, enfin peu importe, je me retrouve à la rue et c'est vrai que je suis confronté immédiatement à la réalité de la vie et aujourd'hui j'en suis c'est une chance pour moi, disons, d'avoir vécu ça très tôt parce que ça m'a permis de me former, d'être en avance sur on va dire mes adversaires en business aujourd'hui. Et je suis confronté à la réalité et je me dis, bon, dans tous les cas, tu peux compter sur personne. Ta propre famille te laisse à la rue, personne te t'aide, personne te donne 1 euro. Bon, au moins, si tu échoues, ce sera ta faute. Si tu réussis, ce sera de la tienne aussi. Et à partir de là, je mets en place différentes stratégies pour essayer de survivre, gagner un peu d'argent, me former. Je comprends tout de suite qu'il va falloir que j'ai un maximum de légitimité, de crédibilité, donc je continue mes études, même si c'est pas facile parce que je le fais par correspondance, parce que je peux pas en même temps travailler et en même temps faire mes études, donc j'essaie un peu d'être sur tous les fronts. Dans tous les cas.
Comment ça se passe? C'est-à-dire que t'es plus chez toi, t'es chez des amis, t'es comment?
Ouais, c'est hyper galère parce que je sais pas trop où dormir. Et c'est vrai que souvent je suis dans le bus, tu vois, il y a un bus, j'étais à Bordeaux à cette époque, et je me mets au fond du bus et je fais 3-4 fois l'itinéraire du bus, tu vois, c'est-à-dire que j'attends tellement le coup de fil d'un pote qui va me dire tu peux venir chez moi, que là je suis au fond du bus, et le mec à la fin quand il ramène le chauffeur le bus au dépôt, il me dit bon désolé mais là il faut que tu y ailles quoi, et donc si personne t'a appelé t'es complètement dépendant, et c'est cette situation de dépendance que moi j'essaie de combattre au quotidien et c'est pour ça que si tu me demandes quelle est ma promesse de vie, donc la promesse de vie c'est vraiment ton atteinte ultime, ton objectif le plus bird view, le plus complexe, le plus spirituel, moi c'est la liberté. C'est-à-dire que je veux avoir une liberté totale. Et la liberté, c'est justement, à mon avis, ça fait écho à cette sensation un peu complètement liberticide, tu vois, d'attendre après les autres pour savoir où dormir. C'était vraiment pas sympa, quoi, comme feeling. Et du coup, après, j'ai des potes qui m'hébergent, mais c'est des potes qui sont toujours plus vieux que moi, parce qu'à 16 ans, personne n'a un appart, en fait. Donc, c'est toujours avec des potes plus vieux que moi, qui ont des petits boulots. Donc, c'est des gens qui sont pas forcément super intéressants. C'est vraiment une époque compliquée, mais petit à petit, je continue à galérer, à lutter. À un moment, je fais une sorte de procès à mes parents pour qu'ils soient obligés de me verser une pension. Parce qu'en fait, comme je suis trop jeune pour avoir droit au RSA, parce que le RSA c'est à 25 ans, mais comme je suis rattaché à mon domicile familial, j'ai pas le droit à une aide de l'État, donc je suis obligé de faire une rupture familiale devant un juge pour dire je ne suis plus rattaché à ma famille, et du coup, j'ai droit à quelque chose. Donc, tu te retrouves devant le juge à dire « Voilà pourquoi je ne veux plus faire partie de cette famille. » Et donc, tu as tes parents qui ont un avocat et qui disent « Alors, voilà, nous, ce qu'on défend. » Enfin, c'est vraiment une scène incroyable. Hein. C'est vraiment génial. Je le recommande, j'allais dire. Mais en fait, non, pas du tout. Mais je recommande à quelqu'un de regarder un peu comment se passe une rupture familiale. C'est quand même un sacré délire. Je pense qu'il faudrait retravailler un peu tout ça parce que quand t'es à la place de l'enfant et que tu dois faire un plaidoyer pour expliquer pourquoi tu veux sortir de la famille et que t'as le juge qui est très sérieux, très premier degré en face, c'est vraiment un truc un peu ubuesque. Mais bon, bref, à la fin, je reçois une pension. Je crois que j'ai 130 euros de ma mère et 140 de mon père ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, un truc délirant. Et du coup, ils disent, ben voilà, ça te fait 300 et quelques euros pour vivre. Donc, tu démerdes-toi. Et là, bon bah, c'est la meilleure école, et c'est pour ça que encore une fois, je m'en plains pas et je veux pas faire pleurer dans les chaumières, parce que si j'avais pas vécu ça, je serais sûrement pas le mec que je suis aujourd'hui. Donc, prenez toutes vos difficultés, toutes vos souffrances, toutes vos fêlures, pour en faire une véritable force, y trouver de l'énergie, de la passion. Je parle souvent de revanche, de vengeance, et c'est des termes un peu forts, mais qui néanmoins sont assez révélateurs de ce pourquoi je me bats. Parce que quand
mais il faut être un peu en colère pour avoir un truc à défendre.
Ouais, vraiment, il faut être en colère, et je pense qu'il faut réussir à maîtriser cette colère de manière à ce qu'elle soit constructive. C'est-à-dire que la colère peut te détruire comme elle peut te faire rayonner. La colère, je la maîtrisais pas quand j'étais jeune, parce que du coup, au lieu d'expliquer aux gens pourquoi j'étais énervé, pourquoi la vie était injuste, tu sais, j'avais tendance à gueuler ou à m'énerver n'importe comment. Et les gens, du coup, disaient, c'est lui qui est fou. Alors qu'en fait, s'ils connaissaient ma vie, ils auraient été capables de projeter ce que j'ai vécu et de se dire, ah, le pauvre, il faut plutôt qu'on l'aide, plutôt qu'on le stigmatise. Et donc, cette colère, moi, j'essaie de la maîtriser, mais il faut quand même la conserver de manière assez pure, pour pouvoir la libérer quand on a besoin. Et c'est un peu comme si tu avais une réserve de puissance à l'intérieur, une réserve de haine, et que tu as un petit bouton, un petit curseur sur lequel tu peux jouer pour lâcher de l'énergie en fonction des moments. Quand tu vas faire un pitch devant des investisseurs et qu'il faut être très énergique, ou que tu as une situation compliquée, que quelqu'un te fait une menace en business et qu'il essaie de te mettre un coup de pression. Et tout ça te permet de t'adapter très rapidement, mais c'est vrai que ça demande des années et des années de travail pour réussir à le gérer.
Donc, 16 ans, et puis après, en résumé, on va pas rester non plus trop sur le passé, parce que donc, on parle du présent et de l'avenir, mais on va dire qu'après, t'enchaînes, je suppose, des petits boulots, t'essayes d'aller à l'opportunité, enfin tu te prends pas la tête, il faut bouffer, c'est ça?
Oui, j'ai toujours trois plans en tête, court terme, moyen terme, long terme. Donc court terme, c'est ce qui va te nourrir pour la journée, moyen terme, disons que c'est pour les mois qui arrivent, et long terme, c'est pour le reste de ta vie. J'ai toujours essayé d'avoir un fil rouge. Je comptais pas du tout sur ma retraite, pas du tout sur un quelconque héritage, parce que je savais qu'il y en aurait pas. Donc il fallait que je trouve une manière d'avoir de l'argent plus tard sans avoir à travailler, parce que je savais que vu que je faisais des petits boulots qui n'étaient pas du tout intéressants, je pouvais pas accepter en tant qu'homme ou en tant qu'humain travailler comme ça toute ma vie. C'est quelque chose que je me refusais à faire, c'était pas du tout épanouissant, je me sentais bête quand je rentrais le soir, j'étais pas bien, donc je faisais des trucs qui me permettraient d'avoir des rentes passive. Donc moi je distingue deux types de business, les business actifs, les business passifs. Les business actifs, c'est ceux où tu as besoin d'être pour générer de la valeur, alors que le business passif, c'est un business qui tourne sans même que tu y sois. Typiquement l'immobilier, les dividendes, des business dans lesquels tu vas investir et que au final les locataires vont rembourser ou vont payer les loyers tous les mois, même si tu fais rien, que tu n'as pas d'action concrète. Et donc, dès le début, et c'était une de mes chances, j'ai commencé à faire de l'immobilier. Alors, pas tout de suite, parce qu'évidemment, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas en faire, mais j'ai commencé par vendre des scooters, après j'ai vendu des voitures, je vendais des caleçons, des calculettes dans mes lycées, enfin, je vendais des fringues, vraiment, je faisais tout ce qui était possible. Et petit à petit, quand j'ai réussi à gagner un peu d'argent, parce que je faisais que ça, hein, c'est-à-dire que j'étais obsédé par l'argent, mais parce que les gens se rendent pas compte à quel point quand t'en as manqué, t'en fais une priorité. L'argent ne fait pas le bonheur, mais
quand on a pas,
voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est typiquement une phrase de riche ou de pauvre. C'est-à-dire que c'est soit les pauvres qui savent qu'ils pourront jamais en avoir et donc ils essaient de se complaire dans cette pensée, ou alors les riches et ils ont jamais manqué d'argent, donc ils réalisent pas ce que c'est. Moi, j'ai plein de potes riches maintenant, c'est marrant, mais des milliardaires, hein, même pas des millionnaires, des milliardaires. Et quand tu les écoutes, les mecs sont dans un monde parallèle, c'est-à-dire qu'ils sont ailleurs et ils te font des problèmes. Enfin, que quand t'es pauvre, tu n'as même pas idée que ça existe. Donc, évidemment que l'argent fait pas le bonheur et que si t'es riche, mais que t'es un gros con et que t'as pas d'amis, t'es incapable d'aimer, t'es pas cultivé, tu t'intéresses à rien, bah, ta vie est triste. Mais si t'es juste normal, bah, il vaut quand même mieux avoir de l'argent. Moi, j'ai été pauvre, très pauvre, et j'ai été riche par rapport aux jeunes de mon âge avec les business que j'ai lancés et compagnie. Honnêtement, à choisir, je préfère quand même rester riche, hein, sans hésiter une seconde. Donc, tout ça pour dire que l'argent, moi, j'en faisais une priorité, j'essayais d'en gagner. Et puis après, j'avais cette chance de pouvoir faire le pont entre les riches et les pauvres. C'est-à-dire que très jeune, j'ai réalisé que j'étais un peu un caméléon et que je pouvais parler avec les franges très basses de la population, donc il n'y avait rien, avec leur code, en renvoyant une image qui leur permettait de m'identifier comme un ami, et en même temps avec les très riches, parce que j'étais capable, via mes études ou via les lectures que je faisais, d'employer les mêmes termes, de parler avec la même intonation, ou en tout cas de leur renvoyer des codes qui leur permettaient de me faire confiance. Et je faisais le pont entre ces deux branches de la société, et j'utilisais l'argent des riches pour leverager nos opérations, pour faire ce qu'on appelle des club deals en immobilier, et j'utilisais mes potes pauvres avec eux, évidemment, pour nous, on travaillait le week-end. C'est-à-dire que typiquement, on utilisait la capacité de levier, la capacité de crédit d'un ami qui avait de l'argent, et nous, on travaillait le week-end dans l'immeuble qu'on a acheté tous ensemble pour refaire les peintures, refaire les plafonds, etc. Et chacun était gagnant parce que le riche faisait tourner son argent. Le pauvre, comme nous, nous on était contents parce qu'on travaillait, ça nous permettait d'avoir des parts d'une société, d'une SCI, et de gagner de la valeur sans investir d'argent qu'on n'avait pas, et ainsi de suite. Et on crée de la valeur pour tout le monde, et c'est pour ça que je suis persuadé que la meilleure chose à faire, c'est de réussir à rebattre les cartes, à redistribuer un petit peu par la méritocratie, on va dire, les richesses, et de faire en sorte que tout le monde puisse croquer sans forcément opposer les uns les autres. Il y aura toujours des injustices, hein, dans le monde, ça, faut pas se voiler la face. Mais tu vois, il faut juste rebattre un petit peu les cartes. Et puis, petit à petit, l'immobilier a fonctionné. J'ai fait des business, j'ai fait de l'import-export, j'ai voyagé. J'ai toujours été droit et juste, ce qui fait que les gens avec qui je faisais des affaires avaient envie d'en refaire. Ils me faisaient confiance. Et du coup, bah, j'ai réussi à me créer un réseau intéressant qui m'a permis de décoller au fur et à mesure.
Et en fait, c'est en constatant que tu n'avais plus le temps de manger que tu as monté feed, en fait. C'est que tu as commencé à faire tes premières recettes de ce que j'ai cru comprendre. Après, arrête-moi si je me trompe, mais tu as eu cette idée en travaillant, en fait.
Oui, c'est ça. Je voyageais tellement et je travaillais tellement. C'était très intense. Hein. C'est-à-dire que, comme d'habitude, il n'y a pas de secret. Il faut faire des compromis. J'ai plein de potes qui me disent « Putain, t'as de la chance, c'est incroyable, tout a marché si vite pour feed. » En fait, il n'y a pas de chance, c'est que simplement, j'ai travaillé jour et nuit, que les gens dans notre équipe ont travaillé jour et nuit, quand les autres entrepreneurs, les concurrents qui depuis ont mis la clé sous la porte, allaient se faire des week-ends, faisaient des soirées, allaient au cinéma, s'amuser. Tu ne peux pas réussir sans compromis, surtout quand tu commences d'en bas et surtout quand t'es pauvre. Quand t'es pauvre, c'est all-in. Donc, t'as pas le droit.
En fait, c'est pas des compromis, c'est des sacrifices.
Ouais, c'est des sacrifices, clairement. C'est-à-dire que moi, j'ai loupé ma jeunesse pour réussir. Donc, il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais c'est vraiment dommage. Moi, j'ai pas du tout envie de passer à côté de mes 10 plus belles années. » Et je peux le comprendre et je juge absolument pas. Mais de l'autre côté, il faut aussi entendre que si tu veux faire de grandes choses et réussir, on va dire, plus que la normale, bon, bah, il faut aussi que tu...
Ça va pas faire tout seul, ouais.
Ouais, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Donc, voilà, on a travaillé très dur et ça nous a permis à un moment de sortir la tête de l'eau. Et c'est exactement dans cette situation que j'ai réalisé que je me nourrissais mal parce que je travaillais tellement, je voyageais tellement que j'avais pas le temps de me faire bien à manger. En plus, je sais pas cuisiner. Enfin, vraiment, j'y prends aucun plaisir. Et je me suis dit, mais comment je pourrais bien me nourrir pour être en pleine forme? Sans y passer du temps, sans que ça me coûte trop cher. Et j'ai regardé sur internet s'il y avait des solutions. Il n'y en avait pas. Il y avait que des produits soit de régime, soit pour les sportifs qui voulaient prendre beaucoup de masse musculaire. C'était pas ce que je recherchais. Et du coup, j'ai lancé une boîte qui était un concurrent, on va dire, de Soylent. Soylent, c'est les premiers à faire ça aux États-Unis. C'était vraiment un remplacement de repas. Et du coup, j'ai lancé ce remplacement de repas en France en faisant des recettes sur un Excel que j'avais créé, qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain classique, donc protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments. J'ai joué ensuite avec les ingrédients que j'ai achetés sur Internet, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, de l'huile d'olive. Et à un moment, j'ai trouvé une recette qui me permettait d'avoir tout ce dont j'avais besoin. C'était pas super bon au début, c'était très céréalier, très naturel, très brut. Et après, on a optimisé le goût, ce qu'on appelle l'organoleptique. Et petit à petit, c'est devenu top. On a fait des poudres, on a fait des bars.
Moi, j'ai tout essayé chez vous. J'aime beaucoup, franchement.
Trop cool. Et c'est important d'expliquer aux consommateurs ou aux futurs nouveaux consommateurs qu'il faut comprendre à quoi ça sert avant de le goûter. Parce que parfois, t'as des personnes qui vont dire « Ah ouais, mais moi, je préfère mon jus de fruits. » Ben oui, mais en fait, tu peux pas comparer un feed à un jus de fruits. C'est-à-dire que le jus de fruits, c'est pur plaisir et c'est pour te réveiller le matin, bon, t'as envie de kiffer. Alors que feed, t'es dans une notion d'équilibre alimentaire parfaite, c'est fonctionnel, c'est pragmatique. Quand t'as en tête le cahier des charges, que c'est vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, que ça t'apporte parfaitement tout ce dont t'as besoin, ben là, t'es beaucoup plus, on va dire, compréhensif envers le produit et ce que t'aurais pu trouver trop lourd, trop épais, ben tu comprends qu'en fait, c'est bon pour toi, pour ta satiété, pour ta santé.
D'autant que toi, alors, t'as fait un truc incroyable, c'est que t'es multi-cible et multi-produit, en fait. Parce que, enfin, t'es d'abord multi-produit pour avoir une multi-cible. Je me trompe si je dis ça ou pas?
Non, c'est vrai. On a commencé par une gamme.
T'as des cadres supérieurs qui n'ont pas le temps de manger, t'as des femmes qui ont envie de maigrir, ou des hommes d'ailleurs, enfin des gens qui sont dans une perspective d'amaigrissement. Comment on gère ça en fait, tu vois? Parce que souvent on dit, quand on est entrepreneur, faut un produit, faut pas bouger de son produit, faut rester là-dessus, faut être vertical, etc. Toi, t'as finalement plusieurs boîtes dans la même boîte, parce qu'on s'adresse pas du tout de la même manière à quelqu'un qui veut maigrir.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Il y a quelqu'un qui veut bosser, quoi. Enfin, c'est pas du tout les mêmes.
C'est vrai, c'est un vrai défi marketing. Nous, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a lancé une gamme originale. Donc, c'était vraiment pour les humains, on va dire, standards, hommes ou femmes qui veulent juste un repas complet, équilibré, pratique. Et très rapidement, on a vu que des gens détournaient le produit. C'est-à-dire qu'il y en a qui allaient rajouter de la protéine pour faire du sport dans le repas. D'autres qui allaient pas mettre 4 dosettes, mais seulement 2 dosettes parce que du coup, ils voulaient perdre du poids. Et en fait, ça dégradait soit l'organoleptique, soit le goût. Soit ça dégradait l'équilibre nutritionnel parce que si tu mets que 2 dosettes, ben tu vas être en carence de vitamines et minéraux, etc. Et donc on s'est dit, plutôt que de laisser le client faire lui-même ses mélanges, on va faire un système de gamme qui va lui permettre de répondre à différents objectifs. On a la gamme originale qui est la gamme classique, une gamme light qui va être pour les personnes qui veulent perdre du poids. Donc là, on va volontairement rajouter des vitamines, rajouter des minéraux, de manière à ce que même si t'as moins de calories, ben t'es pas de carence sur les micros et les macros. Et puis on va faire une gamme sport qui va être surchargée en BCAA, en protéines, en acides aminés pour les personnes qui ont vraiment une dépense physique importante et qui veulent prendre du poids ou faire des efforts intenses. Et on a même sorti une gamme snack parce que là encore, on a vu que les consommateurs coupaient nos barres et essayer d'en manger qu'un petit bout parfois quand vous avez une petite faim. Et en fait, on se dit, bon, on va vous faire une gamme snack. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de refermer le packaging avec des élastiques ou des trucs comme ça. On va vous faire des portions de 100 grammes qui sont moins chères, qui sont toujours équilibrées. Comme ça, si vous avez un petit creux à 10h, à 16h ou avant de coucher, vous pouvez prendre une mini barre et elle est parfaitement étudiée pour, elle est moins intense, etc. Donc, c'est vrai que ça a été super dur de parler en même temps à tous ces personas, à tous ces segments de la population et à tous ces clients qui sont très différents. C'est pas le même ton. Donc, on a dû mettre en place des outils qui nous permettaient de bien segmenter la communication. On va pas envoyer le même mail à la personne qui achète du light qu'à celle qui achète du sport. Et ce qui nous permet de recentrer et d'avoir une cohérence globale, et c'est clé pour une marque, c'est d'avoir fixé dès le début de l'aventure un gros why, un gros pourquoi. Et c'est souvent ce qui différencie une marque qui réussit et une marque qui échoue. Il y a beaucoup de marques qui font des produits et qui se vantent de vendre ces produits. Mais il y a très peu de marques qui arrivent à créer une histoire, un storytelling autour du parcours, de l'aventure humaine, et qui mettent le produit au second plan. Et quand je dis mettre le produit au second plan, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de qualité, mais c'est simplement que les gens, quand ils viennent chez Fille,
l'histoire est plus forte que le produit.
Ouais, donc, exactement. Ils viennent pas pour acheter juste une barre ou juste une bouteille, ils viennent pour acheter une aventure. Et le produit, de base, on sait qu'il est qualitatif, mais tu es tellement sûr de toi que tu n'as pas besoin de t'en vanter. Et ce why, qui est pour Feed, vous aider à atteindre vos objectifs, vous aider à vous extraire de votre condition initiale, et ben c'est exactement ce qu'on propose de différentes manières, avec la gamme originale pour ceux qui veulent juste gagner du temps, la gamme light pour ceux qui veulent retrouver la forme et et perdre un peu de poids, et la gamme sport pour ceux qui veulent vraiment atteindre des objectifs très physiques.
J'ai cru voir ou entendre une interview de toi où tu disais que l'entreprise, finalement, elle a un rôle politique aujourd'hui et que tu as envie de déclencher une sorte de révolution. Tu as aussi parlé de revanche sociale. Comment tu vois les choses ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu considères que on est obligé, quand on monte une boîte, d'avoir une revendication politique. Alors attention, le terme politique est aujourd'hui compliqué à cerner, mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un objectif social avant tout.
C'est sûr, on est dans une époque où les consommateurs n'achètent plus des produits, encore une fois, ils achètent des marques, et c'est clé d'avoir quelque chose à raconter, d'avoir un engagement, fût-il social, politique, économique. Tu dois croire en quelque chose, tu dois avoir des valeurs, tu dois dégager une énergie, tu dois dégager une émotion, et moi, assez naturellement, mon aventure entrepreneuriale vient s'impliquer dans une vie personnelle qui est compliquée, où il y a eu beaucoup d'envie de revanche, et ça me donne de l'authenticité, de la crédibilité. C'est clé pour moi que tous les entrepreneurs se posent la question avant de monter leur boîte, qu'est-ce que je veux raconter, quel est mon message, quel est mon combat, quelle est ma promesse, et que la boîte devienne le bras armé de cette vie personnelle. Tu vois, c'est-à-dire que, en gros, la boîte est le prolongement de ta vie en tant que fondeur. C'est terminé les projets où tu viens juste vendre un produit parce qu'il y a une opportunité financière. Si tu ne le fais que pour l'argent, ou que parce qu'il y a un marché, ou parce qu'il n'y a pas de concurrent et que tu veux vite te lancer, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut que ce soit ancré dans quelque chose de beaucoup plus profond, parce que le business est tellement dur que si tu ne le fais pas pour les bonnes raisons, tu abandonneras à la première difficulté. Voilà, juste que il faut bien comprendre son combat et ensuite faire en sorte que ça te plaise de le défendre. Et moi, la revanche sociale, le combat politique dont tu parlais, c'est quelque chose qui m'anime. Moi, j'ai vu des injustices toute ma vie. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant, j'ai une chance incroyable, c'est que je viens de tout en bas. Tu peux difficilement faire plus bas. Et maintenant, de par mon entourage, de par mes connexions, de par mes amis, je vois ce qui se fait tout en haut, mais vraiment, tu vois, dans les élites. Et en fait, c'est ubuesque parce que le grand écart est tellement violent que les gens ne réalisent pas ça. C'est-à-dire que les très riches ne réalisent pas la vie des très pauvres et les très pauvres ne réalisent pas la vie des très riches. Je suis pas là, moi, pour stigmatiser, dire c'est la faute des uns, des autres, je m'en fous. Le seul truc, c'est que je veux rebattre un peu les cartes et faire en sorte de donner à l'ensemble des humains cette croyance que oui, vous pouvez y arriver et vous pouvez faire autre chose. Et de la même manière, c'est pas facile pour les riches parfois. Parce que moi, j'ai des amis riches qui sont très, très malheureux, quoi. Et la plupart, ils prennent de la drogue parce qu'ils savent tellement plus quoi faire de leur vie. Ils ont aucun but. Ils savent pas quoi foutre de leurs 10 doigts. C'est pas forcément plus facile pour eux, hein. Mais ce que je veux, moi, c'est redonner le pouvoir à l'humain et qu'ils comprennent qu'en fait, il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es né dans telle ou telle famille que tu peux pas t'extraire, que tu peux pas faire autre chose, que tu peux pas dire non à ton destin, tu vois, qui est un peu préforgé, préfabriqué par ton entourage. Sois un peu libre et éclate-toi, quoi.
Ouais. Au niveau du business, j'ai juste deux trucs qui me taraudent. C'est, tu es associé, donc tu n'as pas d'associé. Ce que je veux dire, c'est que t'es fondateur et t'as pas d'alter ego, t'as pas d'associé, t'as pas... À part, bien entendu, tes investisseurs, parce que je crois, ou j'ai cru comprendre que tu avais levé, alors arrête-moi encore une fois si je me trompe, mais une quinzaine de millions, c'est ça ?
Ouais, plus même, on a fait 500 000 euros, 3 millions, 15 millions, et une dernière grosse levée sur laquelle on n'a pas communiqué, parce qu'on ne voulait pas que ça tourne autour de la levée de fonds. Il y a beaucoup de startups qui se vantent de lever maintenant des dizaines de millions. Et en fait, c'est devenu tellement commun que ça n'a plus de sens de s'en vanter. Nous, on voulait se concentrer sur la marque et sur la mission. Mais oui, je te confirme, je suis monofondeur, donc je n'ai pas d'associé. Et les seuls actionnaires que j'ai dans ma cap table, comme on dit, mes actionnaires, c'est Alven, c'est Autium, Utopia, c'est des personnes qui ont investi de l'argent dans la boîte.
D'accord. Aujourd'hui, tu es heureux de cette situation ? Attention, je te demande pas de attends, c'est pas du tout. Comment tu vois les choses, toi, à l'avenir pour Feed, en fait, tu vois, toi, Feed, les prochaines étapes, etc. Parce que quand on est seul à bord, avec des actionnaires, bien entendu, c'est assez compliqué, non? Enfin, je sais pas, il y a des avantages à être seul. Ça, c'est évident parce que je pense que, au moins, tu avances plus vite, tu te poses moins de questions. Mais il y a aussi des inconvénients, c'est que si tu te prends une claque dans la figure, tu dois l'assumer à 100% et du coup, t'as une forme de responsabilité qui est nettement plus énorme que si c'est partagé entre 3 cofondateurs ou 2 cofondateurs. Donc, tu vois, genre quand tu souffles un peu et que tu te dis, comment je me projette moi en tant que personne et la boîte surtout.
Tu as raison, il y a du plus et du moins, comme dans toutes les situations. Les avantages, tu les as dit, c'est ça va très vite. Tu dois assumer à 100%, donc quelque part, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand ça marche, c'est grâce à moi. Quand j'échoue, c'est aussi de ma faute. Si tu gagnes et que tu arrives à vendre la boîte, tu gagnes beaucoup d'argent parce que tu divises pas par 3 ou 4, en tout cas par le nombre de fondeurs. Maintenant, les côtés négatifs, c'est que tu as énormément de pression, tu es seul. C'est très, très dur l'entrepreneuriat quand tu es seul parce que tu peux pas trop en parler, personne te comprend. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des investisseurs et une très bonne équipe parce que du coup tu peux partager ce poids, on va dire, qui est sur tes épaules, parce que tu sais, tout le monde est là quand ça va très bien, sauf que tout le monde te tourne le dos dès que ça va un peu moins bien, et il y a aucune aventure entrepreneuriale où tout a été rose, où tout a grandi, on va dire, de manière linéaire vers le haut. Il y a toujours des vagues, et quand t'es dans le creux de la vague et que t'es seul, c'est sûr que parfois quand tu te couches le soir, t'as un peu la pression, quoi. Mais ça fait partie du jeu, donc il faut pas se plaindre. Néanmoins, j'aurais pas pu faire sans lever autant d'argent, j'aurais pas pu réussir ce qu'on a fait si j'avais pas eu la confiance des actionnaires qui ont parié sur moi et sur la boîte. Donc je vais surtout pas, tu vois, remettre ça en cause. Je pense qu'il vaut mieux avoir une petite part d'un gros gâteau qu'un gros gâteau qui vaut rien du tout. Et quand tu viens d'en bas, t'es obligé de lever des fonds. C'est-à-dire que si tu veux faire une belle boîte, malheureusement, il te faut de la puissance financière, il te faut de la puissance marketing. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que ta prochaine boîte, tu la feras sans investisseur? Oui, c'est probable, parce que j'aurai assez d'argent pour pouvoir être complètement indépendant, faire absolument ce que je veux. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un vrai plaisir de pas avoir de compte à rendre, de pas écouter les avis pas toujours éclairés des uns ou des autres.
Également atteindre une rentabilité peut-être moindre mais plus rapide.
Oui, c'est sûr que quand tu as 100% du capital, si tu vends ta boîte même 10 millions, ce qui est un échec, hein, si tu fais une start-up et que tu vas vendre 10 millions, ça peut paraître bizarre pour les gens qui sont pas dans le business, mais c'est un échec. Mais bon, en attendant, tu as 10 millions d'euros sur tes comptes. Pour avoir 10 millions en ayant des actionnaires, c'est compliqué parce qu'au final, souvent, il va te rester 10% de la boîte. Donc, ça voudrait dire qu'il faut que tu vendes 100 millions ta société pour pouvoir récupérer les mêmes 10 millions. Donc, parfois, il vaut mieux faire le calcul et se dire, je vais faire ce qu'on appelle une boîte startup founder. C'est centré sur le founder où il n'y a aucun investisseur, et je vais la vendre peu d'argent. Je vais pas la vendre très cher. D'un point de vue business, ce sera un peu un fail parce que si tu vends ta boîte 10 millions, ça veut dire que tu fais 4-5 millions de chiffre d'affaires, on va dire. Bon, c'est pas énorme, disons, pour une boîte, mais néanmoins, ça te permet d'avoir atteint un bel achievement financier. Donc, tout est question de ce que tu veux faire. Moi, je voulais avoir un impact très fort et je voulais faire quelque chose de gros, donc j'avais pas le choix, il fallait que je lève. Et je voulais pas y passer 15 ans. Moi, je savais que Feed, c'était une aventure de 5 ans max. Là, tu vois, ça fait 3 ans. Il fallait que je fasse un truc énorme en 5 ans. Et dans 5 ans, sûrement, quelqu'un reprendra la main ou je passerai ma place, on verra. Mais tu vois, je savais que je voulais faire un truc intense.
Je comprends. Du coup, en termes de prochaines étapes, je suppose que là, l'expansion internationale, elle se complexifie un peu vu le contexte, non?
Pas facile, ouais. Le Covid nous a bien freinés. On était en plein lancement des US, de la Chine. On voulait accélérer à l'étranger. On est déjà dans 50 pays, mais on voulait vraiment faire des grosses zones géographiques. Oui. Et là, tout a été mis en stand-by. Ça nous rappelle que il faut être résilient, que parfois, t'as pas la main. Et ça sert à rien de se battre. Moi, je faisais pas mal de surf quand j'étais jeune, et c'est un peu comme l'océan, c'est-à-dire que À moins quand tu es dans une baïne ou que tu es dans un courant, ça sert à rien de nager contre le courant, faut juste te laisser emporter. Et puis, quitte à dériver de 3 km, bon, bah, tu reviendras à pied par la plage. Bah, là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a été pris dans un courant très fort qui nous dépasse, qui est macroéconomique. On s'est concentré sur retravailler en profondeur le portfolio, notre communication, nos valeurs, notre promesse, le packaging, l'éco-responsabilité, l'impact qu'on avait sur la planète pour pouvoir relancer plus fort la machine en 2021 quand on sortira de cette période compliquée.
Tu peux avoir des commandes en ligne aussi là en ce moment quand même, non ?
Bien sûr, nous on vend beaucoup en ligne. C'est simplement qu'on est flat et si tu veux, pour une start-up, être flat, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Donc, on doit être dans une croissance folle tout le temps en start-up parce que quand tu investis, quand tu fais rentrer des investisseurs, ils parient sur l'avenir. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas ta valorisation passée, ils achètent ta valorisation future. Et du coup, ta valorisation future, elle est basée sur des business models, des business plans où tu projettes une grosse croissance. Et donc, quand tu es coupé dans ta croissance, bah, tout le monde tire un peu la tronche parce qu'ils te disent « tu m'as fait payer une valo de X ». Alors qu'aujourd'hui, tu la vaux plus parce que tu fais plus tes chiffres. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des moments de tension comme ça, mais ça fait partie du jeu. Et encore une fois, tant que toi, tu fais ton maximum et que tu essaies de travailler le plus que tu peux, d'être le plus impliqué possible, personne ne t'en veut, quoi, si tu veux. Personne ne va te faire de réflexion. Mais c'est vrai que c'est jamais simple, ces périodes un peu houleuses où tu n'as pas de visibilité.
Est-ce que tu penses que tu as des failles ? Parce que franchement, moi, c'est ce qui m'est apparu quand je t'ai écouté. Je me dis, mais c'est fou, la maturité de son discours, le recul qu'il a sur les choses. Bon, ça sent le vécu, c'est évident. Mais est-ce que tu estimes avoir des failles, des faiblesses ? Comment tu gères ça ? Enfin, on en a tous, hein, mais est-ce que tu en vois déjà ? Et est-ce que tu as les forces, on a compris que tu en avais, mais les faiblesses, tu vois, et comment tu les gères aujourd'hui ?
Oui, j'ai plein de failles et tout le monde a ses défauts. Vraiment, il n'y a pas de surhomme. Il y a que des gens qui essaient de relativiser ce qui leur est arrivé, qui essaient de passer outre. Le seul truc, c'est que j'essaie toujours de faire de mes faiblesses des forces. Et c'est pour ça qu'on les voit assez peu. Mais de la même manière que je vais être très mature sur plein de sujets, je vais être très immature sur d'autres. Et c'est marrant parce que je suis souvent dans une dualité assez forte et quelque part, je suis très malheureux de la situation et de ma vie d'une manière générale parce que forcément, je suis objectif et je me dis c'est quand même bizarre d'avoir vécu tout ça et c'est un peu injuste. Mais d'une autre manière, c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me permet de réussir. Donc de la même manière, je vais avoir des rapports sociaux, on va dire, ou des rapports à l'autre qui sont très différents parce que j'ai tellement grandi dans la haine et la violence que tout ce qui est amour, amitié, c'est des choses qui me paraissent toujours un peu distantes, très compliquées à toucher du doigt. Mais c'est aussi ce qui me rend attirant, on va dire, pour les gens. Et c'est pour ça que j'ai plein de potes et plein de personnes autour de moi qui sont là parce que elles savent que je suis touchante et que je suis différente et que je suis très honnête. Donc quelque part, c'est toujours ces forces qui deviennent des faiblesses et ces faiblesses qui deviennent des forces et ça mute en fonction des périodes. J'ai vraiment la chance après de pouvoir apprécier à leur juste valeur plein de choses qui peuvent paraître on va dire classiques pour des personnes lambda. Moi je suis toujours super reconnaissant de tout ce que je peux vivre, de tout ce que je peux faire. Je sais que j'ai une chance inouïe et vraiment être capable d'apprécier ça, je pense que c'est quelque chose de formidable. J'ai manqué d'amour, tu vois, un autre exemple, toute mon enfance. Mais quand j'ai rencontré une fille qui s'appelait Mélanie et qui travaille toujours chez Fit d'ailleurs, qui est quasiment ma COO, tu vois, c'est ma DG, même si on le dit pas à l'extérieur, c'est vraiment elle qui s'occupe quasiment tout à l'intérieur. Et je l'ai rencontrée à, je sais pas, 20 ans, et elle m'a regardé, tu vois, avec des yeux vachement bienveillants. Et pour la première fois, j'ai senti que l'affection de quelqu'un ou la confiance que de porter quelqu'un pouvait aussi te faire te dépasser. Et donc tout ça, tu vois, ça m'a permis de créer des relations très fortes et d'avoir autour de moi des gens qui sont vraiment là pour moi, où on fait pas de pathos, tu vois, je suis pas un mec dans les sentiments à dire oui, je t'aime, t'es mon amour, t'es mon ami, je suis ton. Mais par contre, tu vois, on est solide, on est là les uns pour les autres, et c'est génial. Donc vraiment, pour répondre à ta question, je suis rempli de faiblesses et de failles. Et il y a des moments où c'est compliqué parce que je me remets tout le temps en question. Je suis un éternel insatisfait. Je veux toujours faire plus. Et donc, tu vois, c'est pas facile de vivre à mes côtés parce que je mets une énorme pression et je mets beaucoup de challenges. C'est-à-dire que je suis extrêmement dur avec moi, extrêmement dur avec les autres parce que je m'attends à ce qu'on marque l'histoire, tu vois. Et quand je dis marque l'histoire, c'est pas pédant, c'est pas pour qu'on se souvienne de mon nom. Ça, je m'en fous. Mais je veux qu'on fasse un truc incroyable. Et je veux qu'on montre à tous les jeunes qui sont dans une situation difficile aujourd'hui, que nous, on vient du même endroit qu'eux, avec peut-être des histoires différentes, mais en tout cas, on va dire qu'on a vécu des choses très compliquées, et que malgré tout, on va marquer l'histoire, que ce soit par cette boîte ou par la prochaine, on va faire un truc de ouf. Et donc, bah, ça, tu peux pas faire de truc de ouf sans te mettre la pression et sans te challenger. Donc, pas toujours facile d'être à mes côtés.
Bah, c'est bien de le reconnaître au moins. Attends, tu as quand même fondé t'as créé une fondation qui s'appelle Feedback. J'ai oublié de t'en parler. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Yes, Feedback, ça s'est vraiment imposé à nous. C'était quelque chose de très naturel. En gros, c'est une fondation qu'on a lancée avec Feed où on va mettre 1% de notre chiffre d'affaires chaque année, donc pas de notre bénéfice comme c'est souvent le cas. Et dans ce cas-là, tu vois, la plupart des startups ou des boîtes, elles font en sorte de pas faire trop de bénéfices parce que dans tous les cas, elles veulent pas payer d'impôts. Et donc, ça fait genre qu'elles donnent alors qu'elles donnent pas grand-chose. Nous, on donne 1% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est vite des gros montants. Et cet argent, on va le distribuer à des jeunes qui ont une histoire très compliquée. Ça, c'est le cahier des charges. Il faut qu'ils aient galéré. Il faut qu'ils aient des gros problèmes. Donc, ça peut être des handicapés, ça peut être une minorité qui est mal représentée, ça peut être quelqu'un qui a des parents violents, ça peut être des immigrés, peu importe, des gens qui ont galéré, mais qui, malgré tout, continuent à avoir un rêve énorme et qui ont un rêve colossal. C'est-à-dire que si tu viens me voir et que tu me dis, je sais pas, ouais, j'ai envie de faire... un truc bidon, tu vois, genre, tu sais, tous les étudiants veulent faire le truc des gazelles là où je sais pas quoi, tu sais, où ils vont dans le désert avec une deux chevaux. Bon, c'est bon, ça, il y a des dizaines de milliers de personnes qui le font, enfin je m'en fous, ça m'intéresse pas de t'aider à faire ça. Par contre, si tu viens me voir et que tu me dis que tu veux révolutionner une industrie, que tu veux être le meilleur joueur de piano de ta génération, tu veux être un grand sportif, que tu veux sauver le monde, bah là pour le coup ça m'intéresse. Et là, on va t'apporter de l'argent, on va t'apporter notre réseau qui commence à être conséquent quand même. On va t'apporter des coachs, on va t'apporter des produits feed pour que tu puisses en plus bien te nourrir. Et ça, c'est canon et c'est quelque chose qui nous anime et qui nous apporte aussi beaucoup parce que je pense que pour qu'un bon business puisse exister, il faut que tout le monde gagne. Et là, c'est pareil avec une fondation. Pour qu'une fondation fonctionne sur le long terme, il faut qu'elle t'apporte à toi. Et elle m'apporte absolument pas de l'argent, mais elle m'apporte des choses qui sont encore plus valorisantes. D'une, ça rappelle à mon équipe qu'on se bat tous les jours, non pas pour vendre des bars et des bouteilles, mais pour vendre un rêve, un espoir pour tout le monde. Ça nous rappelle qu'on se dépasse. Moi, ça me rappelle aussi qu'il y a des gens qui galèrent, qui souffrent, et ça me ravive un petit peu cette énergie. Et ça m'évite de tomber, on va dire, dans un confort de vie parce que t'as un peu gagné de l'argent, etc. Quand les gens ils viennent me raconter leurs histoires qui sont très compliquées, je me dis waouh, faut pas que j'oublie que moi aussi je viens de là et ça doit je dois pas oublier ma promesse. Donc vraiment, ça me fait un boost perso. Et puis même pour la marque, c'est le dernier apport, ça nous permet de valoriser ce qu'on fait chez Feed et d'expliquer notre combat en fait et de dire. Quand t'achètes du feed, tu le fais pas juste pour avoir un repas, mais tu le fais pour participer à quelque chose qui est global, qui est à 360, et quelque part, tu glisses un peu un bulletin de vote dans l'urne en achetant une bouteille ou une barre, et tu sais que, en te faisant du bien à toi-même, avec ton corps, avec tes objectifs, bah, tu permets aussi à des jeunes d'atteindre leurs rêves, parce que derrière, à cette fondation qui déploie pas mal d'argent, donc c'est vraiment win-win, et on s'éclate à travailler là-dessus au quotidien.
On arrive à la fin de l'interview, le temps passe vite, Anthony. Est-ce que je pose toujours trois questions récurrentes à mes invités. La première, c'est qu'est-ce que tu penses de la France aujourd'hui, ta vision de la France ? Hyper globale hein, comme question. Alors, t'es pas obligé de faire, voilà, ça peut être un mot, une phrase, peu importe. Mais quel est ton point de vue aujourd'hui sur la France ?
Je pense que la France est très segmentée. Un peu comme notre base de clients, que ça va très mal et que je suis très gêné de cette situation parce que en fait moi j'ai participé et j'ai été dans tous ces segments. J'ai été très pauvre, donc je comprends les pauvres et les gilets jaunes. D'un autre côté, je sais que c'est pas par la violence que tu peux résoudre des choses et en cassant des vitrines, ça apporte rien. Mais en même temps, je suis admiratif de l'énergie qui est déployée par des couches de la population qui commencent à comprendre que le monde va changer, que tout va être différent et qu'on peut pas se laisser faire par des élites qui ont mis ce système en place. Donc en réalité, la France va mal, mais je suis assez content qu'elle aille mal parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience qui est en train de se faire et qu'on va vivre, et j'en suis persuadé, une révolution de notre vivant, et qu'on va vivre quelque chose de structurant dans l'avenir. Et si je peux aider ou être le déclencheur ou participer à tout ça, je le ferai parce que c'est de mon devoir de dire aux jeunes ne soyez pas satisfaits de l'avenir qu'on vous propose, allez chercher ce qui vous anime. Et je pense que ça repassera, enfin ça passera par une nouvelle distribution des cartes parce qu'il y a trop d'injustices et même la France est en train de le réaliser.
Deuxième question avant la troisième, c'est est-ce que tu as un coup de cœur et la troisième c'est un coup de gueule ou l'inverse, ou tu le mets dans l'ordre que tu veux. Coup de cœur, ça peut être un film, une rencontre, un bouquin, une émission, peu importe.
Un coup de cœur, allez, un bouquin du coup, parce que vraiment ça va dans la lignée de ce qu'on a raconté aujourd'hui. C'est un bouquin de Simon Sinek, donc Simon Sinek. Start with why, c'est assez classique.
Tout à l'heure, quand tu me parlais du pourquoi, j'étais en train de me dire, mais il fait référence à Simon Sinek.
Ouais, exactement. Et alors, c'est un peu cliché, mais en gros, c'est un bouquin qui va vous expliquer que pour réussir, vous devez trouver une raison authentique qui vous anime et que votre boîte, vous devez la lancer pour qu'elle devienne le bras armé de votre mission personnelle. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et vraiment, quand tu finis ce bouquin, tu comprends que la plupart des grandes boîtes, elles se concentrent pas sur le produit, sur le quoi, sur le comment, mais vraiment sur le pourquoi. Et je trouve que même à titre perso, si vous lancez pas de boîte, c'est super intéressant de se poser cette question. Comment je peux poser ma brand plateforme personnelle pour savoir où je vais?
Je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, un coup de gueule, même si...
Un coup de gueule, ça va être classique, mais la politique, aujourd'hui, je la méprise. Je la méprise parce qu'elle n'est pas représentative de ce que je vois ou de ce que j'ai vécu. Et je pense qu'on est sur une période vraiment glissante et que tout ça va être amené à évoluer très rapidement, que la population, le peuple, de manière large, va comprendre qu'on ne peut pas laisser le pouvoir à des gens qui sont déconnectés de notre réalité, qui n'ont jamais travaillé dans le privé, qui n'ont jamais gagné d'argent par eux-mêmes, qui vivent par le biais des institutions et qui viennent nous donner des leçons de morale, alors que c'est les premiers à abuser du système constamment. Je pense que tout ça va être révolutionné et que c'est le peuple qui va récupérer le pouvoir de manière réelle et authentique. Je suis impatient qu'il y ait une 6e République et qu'on puisse enfin remettre un peu de méritocratie, de crédibilité, d'authenticité, et qu'on arrête avec ce théâtre malveillant. Vraiment, je pense que tout ça va changer. Mais de notre génération, on va même pas avoir besoin de 2-3 générations. Les gens en ont marre, et encore une fois, si je peux participer, et je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui pensent comme moi, on sera les premiers à intervenir pour essayer de faire bouger tout ça.
Ok Anthony, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Non, seulement de croire en vous et que tout le monde s'épanouisse dans leur vie. Vous qui écoutez, vous devez être conscient que vous n'avez aucune limite, tout est possible. Vous devez croire en vous, et même si le monde entier vous dit que c'est impossible, n'écoutez que vos tripes, n'écoutez que votre envie, que votre passion, et vous allez voir que vous pourrez réaliser de grandes choses, des choses dans lesquelles vous n'aurez même pas cru initialement, mais croyez en vous et tout est possible.
Merci beaucoup Anthony, et bonne chance à toi et bonne route. Enfin, non, pas bonne chance, mais bonne route parce que tu ne crois pas à la chance.
Merci, à bientôt.
Salut.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.